Service, service, service. Tim Cook n'a plus que ce mot à la bouche. Enfin presque, depuis le keynote de mars 2019. Rappelez-vous, le patron d'Apple avait à l'époque dévoilé toute une tripotée de nouveaux services. On avait eu droit à la présentation en grande pompe d'Apple Arcade, d'Apple News+, Apple Card, et aussi d'Apple TV+, qui avait été l'occasion d'un défilé de vedettes du petit et du grand écran. Apple n'a pas attendu 2019 pour se lancer franchement dans les services. On avait déjà eu droit à Apple Music, iCloud bien sûr, ou encore Apple Pay, et on peut même remonter jusqu'à la garantie Apple Care. Mais jamais le constructeur n'avait autant écrasé sur le champignon des services. Et c'est pour une raison assez simple finalement. Apple cherche à rentabiliser le milliard d'appareils en circulation dans le monde en transformant tous ses utilisateurs en abonnés. Une stratégie gagnante jusqu'à présent, Apple comptant rien moins que 745 millions d'abonnés. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du Club Hygiène. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire notre récente série du Club Hygiène sur les services d'Apple et sur ce qu'ils valent face à la concurrence. Pour en terminer avec ces articles, on a voulu conclure ce bilan avec un épisode de Kernel Panic. On va dire du bien et aussi, sans doute, un peu du mal de certains services d'Apple. Pour m'accompagner, j'ai invité Sylvain Trinel, tu es Community Manager chez Clubic et grand amateur de contenu en tout genre. Tu vas pouvoir nous donner ton opinion sur tout ça. Salut Sylvain.
Salut.
En tant que grand fan d'Apple TV+, Christophe Laporte, le patron de Mac Génération, ne pouvait rester à l'écart de ce podcast. Salut Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Avant de commencer, bien, je voulais tout simplement vous demander à tous les deux votre avis sur la stratégie d'Apple sur ses services. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parti dans la bonne direction ou est-ce que Apple s'est un peu planté sur des trucs en chemin, Sylvain ?
Moi, probablement, je pense que Apple a bien fait déjà de s'y mettre parce qu'effectivement, hein, on sent bien que c'est la solution pour trouver de la rentabilité, notamment à l'heure où il y a de moins en moins de composants sur le marché. Donc, il faut bien essayer de trouver effectivement de l'argent quelque part, mais surtout ouais. En fait, Apple a le luxe d'avoir des utilisateurs, des fans, on va même dire, qui sont prêts, on va dire, à s'abonner à tout un tas de services, donc avec notamment Apple One, qui réunit l'ensemble de ses principaux services, que sont notamment Apple Music et Apple TV. Là où ils se sont un peu loupés, je dirais, c'est effectivement sur leur stratégie par rapport à Apple TV. C'est vrai qu'ils sont arrivés avec des grands chevaux à la base, en expliquant qu'ils allaient proposer que des contenus originaux. Hyper quali, etc. Bon, dans les faits, tout n'est pas très quali. Et surtout, on voit bien que même s'il n'y avait pas eu la pandémie qui a retardé tout un tas de projets, on sent bien que cette stratégie de ne proposer que du contenu original sans se baser sur du back catalogue, ça pose problème, notamment en Occident, en France plutôt, ou en Europe tout simplement, où les gens sont quand même friands des vieilles séries ou des vieux films. Ou des intégrales.
On va y revenir justement, oui, sur Apple TV+.
Oui, ouais. C'est ça. Et c'est vrai ouais. Qu'effectivement, bah le on voit bien que du côté d'Apple TV, en tout cas, ils marquent un peu le pas. On sent bien que la révolution qu'ils avaient espérée, je pense, lors de l'annonce il y a déjà 2 ans, elle n'a pas du tout eu lieu. Et est-ce qu'elle aura lieu, je ne sais pas. Mais on voit bien aussi que même s'ils sont présents dans certaines remises de prix. En termes de téléspectateurs, ça prend pas, clairement. Donc, y a encore du chemin à faire, et c'est d'autant plus dommageable que Apple ne semble pas faire grand chose pour changer la situation, notamment à cause d'une application qui n'est pas faite. Clairement pour mettre en avant les produits Apple, même si ça s'est amélioré quand même depuis quelques mois, on sent bien que ça a été lancé sans que toutes les chaînes de production ne soient vraiment mises au courant, en quelque sorte.
Christophe, plus généralement, ton avis sur la stratégie des services avant qu'on rentre dans les détails.
Alors, juste pour répondre à Sylvain, tu crois vraiment qu'Apple a des problèmes de rentabilité ?
Ah non, pas du tout.
et d'ailleurs, il y a des services avant qu'Apple les rentabilise. Moi, j'ai du mal à voir. Hein. Tu as parlé par exemple de TV+. Apple a quand même sorti le chéquier, a dépensé de grosses sommes. Faudrait faire le calcul du nombre d'abonnés nécessaires. Bon, même si c'est compliqué avec les abonnements Apple One et compagnie, va falloir des dizaines et dizaines de millions d'abonnés avant qu'Apple atteigne l'équilibre avec ce service-là. Et c'est une manière. D'ailleurs, on parle souvent d'ailleurs de rentabilité avec les services, mais c'est un vrai problème parce qu'il y a des services qui peuvent être très rentables. Ça, je me fais pas de soucis sur les marges qu'ils vont, par exemple, dégager avec Apple Pay. Mais si on prend par exemple un service comme Apple Music, qui est populaire, parce que bon, on a sans doute maintenant un service qui doit avoir, je pense, 100 millions d'abonnés, un peu moins ou un peu plus, hein, puisque la dernière fois qu'ils ont communiqué, c'était 60 millions, et c'était il y a 2-3 ans déjà.
Ouais.
Et quand on voit son principal concurrent Spotify, la rentabilité de Spotify, c'est quand même pas un truc de dingue.
Ouais.
Alors après, évidemment, là c'est là où Apple joue à fond la carte de son écosystème. Un abonné à Apple Music, c'est sans doute un abonné qui achète sans doute plus facilement des HomePod, des AirPods et tous les produits Apple dans le domaine du son. Pour répondre rapidement à ta question et sans m'acharner sur TV+, moi je pense que malgré tout Apple a confondu un peu vitesse et précipitation. Et en fait, moi, le reproche que j'aurais à faire à Apple, c'est qu'elle s'est lancée dans des services et elle s'est pas posé la question de est-ce que ça fait du sens, pour utiliser cette expression anglaise assez horrible. Est-ce que j'ai vraiment, moi, Apple, ma carte à jouer? Est-ce que j'ai quelque chose de spécial à apporter? Est-ce que je peux changer profondément les choses ou l'industrie dans laquelle j'entre avec mon nouveau service?
Ouais.
Et voilà. Et par exemple, pour aller très vite, Fitness Plus, pour moi, c'est quelque chose. C'est une évidence. C'est d'ailleurs même étonnant que Fitness Plus n'ait pas été lancé plus tôt. Fitness Plus, oui, il faut que des gens aient envie de s'abonner, aient envie d'acheter une Apple Watch à cause de Fitness Plus. Et inversement, j'achète une Apple Watch parce que j'ai envie d'utiliser Fitness Plus. Ah, j'ai vu Fitness Plus, ça a l'air super, j'achète une Apple Watch. Ouais. Là, c'est complètement. Ça fait sens.
Il y a une vraie plus-value.
Exactement. Et il y a d'autres services pour finir. Là où moi je suis par exemple très déçu, c'est un service comme News Plus, où Apple avait peut-être quelque chose à faire, une carte à dire, nous, vous savez, on ne dépend pas de la publicité. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous proposer une information de qualité à l'heure des fake news. On a vraiment peut-être une réponse technologique à apporter. Et finalement, ils ont juste fait un grand casque virtuel, ni plus ni moins.
Merci à vous deux pour ces réponses plus longues que ce que j'avais pensé. Bien sûr, on va y revenir tout au long de l'épisode. Et on va commencer par vider l'abcès qu'on a déjà commencé à vider, de toute façon, sur le service le plus controversé d'Apple, c'est-à-dire Apple TV+. Parce que même si Apple fait beaucoup de foin autour de ce service de streaming vidéo, on a toujours du mal à savoir si ça marche ou pas. On peut prendre le problème du petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire sur la qualité des contenus. Christophe, je crois que t'es pas très fort là-dessus, mais Sylvain, tu as ton opinion sur les séries et les films disponibles sur Apple TV+. De ton point de vue de téléspectateur, finalement, qu'est-ce que ça vaut ?
Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, en fait, disons que en termes de qualité, c'est par rapport au nombre de séries disponibles ou de films, c'est toujours mieux que ce que propose Netflix ou Amazon, mais parce qu'en fait, la politique est différente. C'est que d'un côté, il y a effectivement peu de production par rapport à ce que propose un Netflix ou un Amazon. Donc, il y a moins cette logique de « il faut absolument plaire à tout le monde ». Donc, c'est probablement une des plus grandes qualités d'Apple TV+, c'est de peut-être se concentrer sur quelques séries sans vouloir absolument être grand public. On voit que Netflix a totalement changé son fusil d'épaule. Au début, on avait du House of Cards, on avait là ce genre de séries un peu très quali, très léché visuellement, etc. Et aujourd'hui, on a des séries pour les ados ou les young adultes, ce que n'a pas vraiment Apple TV+, parce que ils en ont pas, en tout cas, probablement l'utilité pour l'instant. Ils veulent pas forcément absolument plaire au plus grand nombre. Ils veulent se concentrer sur quelques séries et donc s'assurer qu'il y ait, on va dire, un minimum de qualité dans la série. Là où Netflix est peut-être un peu moins regardant sur la qualité de ses productions. Et puis on le voit avec le succès d'Emily in Paris, par exemple, qui clairement n'est pas une bonne série, mais qui se regarde en tant que voilà, c'est ce petit bonbon qu'on rajoute en fin de soirée histoire de digérer. Ça se regarde sans vraiment se regarder. C'est marrant parce que ça en est ridicule. Et c'est tout. Et Netflix en joue beaucoup de ça. Et c'est le cas de pas mal de leurs séries. Donc aujourd'hui, je dirais que même si la qualité n'y est pas forcément, elle reste quand même à un niveau qui est un peu plus élevé en termes d'attente que ce que l'on trouve sur d'autres services. Il y a des très bons shows, mais il y a aussi des shows qui ne fonctionnent que grâce à leur énorme casting. Je pense notamment à The Morning Show, qui n'est pas une mauvaise série. Moi, j'aime bien regarder The Morning Show. C'est une de mes séries préférées du service. Mais faut pas se dire que oh là là, il y a Jennifer Aniston et Reese Witherspoon et encore plus de membres de casting prestigieux, mais ça en fait pas une bonne série pour autant. En fait, si c'était aussi simple, probablement que la quasi-totalité des studios de production se serait mis à recruter des stars internationales pour s'assurer que derrière il y avait un bon qualitatif. Non, on voit bien qu'avec The Morning Show c'est pas le cas. On voit bien avec d'autres séries aussi que c'est pas forcément le cas. Donc en mettant trop en avant ces stars, peut-être que Apple s'est un peu perdu de ce côté-là.
Christophe, est-ce que à ton avis Apple avait investi suffisamment dans la création de contenu vidéo? Il y a des chiffres qui ont circulé récemment qui disaient que Apple avait acheté pour 2 milliards de dollars de contenu en 2021. Donc c'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est beaucoup moins que Netflix qui a claqué 14 milliards ou encore 9 milliards chez Amazon.
C'est la différence entre un acteur pour qui la diffusion de séries est vitale, Netflix, relativement important pour Amazon, ouais. Et on va dire, oui, c'est de l'ordre du hobby pour Apple. Oui. Après, bon, je peux aussi essayer de dire des choses positives, hein, y a pas de souci. Le tour de force finalement d'Apple, malgré tout avec cette affaire, c'est d'avoir réussi à mettre son logo quasiment sur la... Je sais pas, je connais pas la proportion, mais sur une bonne partie des téléconnectés et des appareils diffusant donc des vidéos en 2022. Ouais. Enfin, vous achetez un téléviseur qui LG par exemple, pour ne citer que, vous avez un logo Apple sur la télé. Est-ce que c'est quelque part du mind sharing dans l'idée d'Apple? C'est quelque chose de voilà, on touche des gens qui ne sont pas forcément nos clients, peut-être. Après, pour moi, ce qui m'intéresse là vraiment en 2000, voilà, on parle vraiment de 2022, c'est donc a priori c'est l'année du casque, enfin si j'en crois les rumeurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que Apple va faire entre son service de streaming et son casque, parce que là, autant j'ai été critique jusqu'à présent et j'estimais qu'Apple n'a pas à produire du contenu. Autant s'il y a une interaction spéciale et vraiment on change complètement l'expérience d'utilisation, l'expérience de la façon dont on regarde une série avec le casque Apple, là j'aurais un propos qui sera différent.
Et tu parles du casque de réalité augmentée là.
Oui, évidemment, oui, tout à fait, ouais. Et ouais. De se dire, enfin moi je sais pas, parce que ça c'est aussi des projets qui sont vieux comme le monde, mais si tu peux te mettre à la place de tel ou tel personnage, ou vraiment t'immiscer dans une pièce et regarder, enfin y être comme si tu y étais. Enfin bon, je pense que si Apple faisait aussi parce que ça nécessite aussi des technologies spéciales, je pense qu'on serait au courant. Mais peut-être qu'Apple commencera au dernier moment et ça peut être un vrai plus pour son casque. Et là, TV+, on pourrait commencer à regarder ça autrement.
Ouais. On va rester dans les contenus, mais cette fois les contenus musicaux avec Apple Music. Christophe, je vais rester avec toi un moment. Je ne sais pas si tu es team Apple Music ou team Spotify, mais j'ai l'impression que ça va pas si mal pour le service de musique d'Apple, même si les comparaisons sont un peu difficiles à faire, parce que le dernier chiffre, effectivement, comme tu disais qu'on avait, c'est 60 millions d'abonnés, et ça remonte à juin 2019.
Alors, je lis beaucoup les commentaires d'iGénération et je suis toujours assez surpris de la rivalité entre les utilisateurs d'Apple Music et les utilisateurs de Spotify.
Ouais.
Bon, moi, je vais être honnête, je considère que c'est un peu comme tu te retrouves au supermarché en face de deux barils de lessive. Et qu'après, c'est à peu près la même chose. Bon, évidemment, il y en a... Alors, j'entends, les algorithmes de Spotify sont meilleurs, c'est certainement vrai. Évidemment, Apple Music a pour l'instant un petit avantage avec le son, enfin, le son haute qualité, avec l'affichage des paroles où c'est un peu mieux fait, genre de choses. Je trouve qu'Apple Music, ça marche. C'est un service qui, malgré tout, a quand même progressé au fil des années, qui devient de mieux en mieux. Ouais. Il y aurait des choses toujours à dire sur l'application Mac qui est pas folle.
Et que dire de l'application Windows?
Mes condoléances. Ouais. Voilà, et voilà, et là où, pour moi, le gros avantage d'Apple Music, ça reste effectivement l'intégration à l'écosystème Apple. Et forcément, c'est mieux si tu as une Apple Watch et tu C'est mieux que Spotify lorsque tu écoutes de la musique au casque et sans rien d'autre. Tu as HomePod, là aussi, c'est plus logique. Voilà. Mais après, moi, j'aurais bien du mal à conseiller tel service plutôt qu'un autre service. Mais Apple Music fait bien les choses. Et surtout, bon, Apple a toujours eu une sensibilité particulière avec la musique. Elle entretient ce fil depuis des décennies maintenant, et c'est bien que ça continue.
Sylvain, on revient de loin avec Apple Music. On se rappelle des débuts qui n'avaient pas été franchement glorieux, mais l'interface est quand même améliorée. Il y a eu pas mal de nouveautés, comme disait Christophe, comme le lossless ou l'audio spatial. Et puis il va y avoir l'application dédiée à la musique classique bientôt. Après, il y a toujours ce problème des suggestions de musique qui sont pas toujours très pertinentes.
Bah, moi, c'est mon principal frein, en fait, et c'est pour ça que je suis sur Spotify. Déjà, il y a l'ouverture. On va dire que Spotify est présent sur autant de machines qu'Apple, mais le fait est que je sais que je vais pouvoir vraiment plus facilement passer d'un appareil à un autre grâce à Spotify, alors que je sais que avec Apple Music, l'écoute sera, on va dire, plus optimisée, on va dire, plus user friendly sur des produits Apple. C'est un peu le défaut de la, entre guillemets, la fermeture d'Apple. C'est ce côté où, oui, Apple Music c'est très bien et ça s'est amélioré clairement pour l'avoir essayé il y a peu de temps, réessayé il y a peu de temps. Effectivement, ça s'est vraiment amélioré, notamment en termes d'interface, mais le fait qu'on ne puisse pas facilement, pour un utilisateur Windows ou Android, repartir, on va dire, sur ses playlists et compagnie, c'est quelque chose qui me pose encore problème. Et c'est vrai que Apple, de ce côté-là, a ce défaut, en fait. Ils l'ont eu avec Apple TV, parce qu'ils ont mis un certain temps avant de sortir leurs applications sur d'autres plateformes que l'Apple TV. Mais c'est encore plus important sur Apple Music, puisque, bah, c'est quelque chose que les gens écoutent constamment. Là où Apple TV Plus, on peut toujours s'en sortir pour le porter sur un écran de télé ou sur un ordinateur. C'est pas un défaut en soi. Sur Apple Music, c'est un défaut. Donc, pour moi, il y a cette problématique. Après, tu parlais des débats dans les commentaires de IGN. C'est vrai qu'effectivement, il y en a très souvent à ce sujet et c'est toujours assez drôle à voir à quel point ils arrivent mordicus à essayer de convaincre que Spotify est mieux qu'Apple Music ou le contraire. Mais l'avantage d'Apple Music, je pense, c'est que, et c'est là où Apple a quelque chose à jouer, c'est qu'ils ont l'air, en tout cas, plus respectueux des artistes que Spotify. Ça fait des années qu'on parle de la manière dont Spotify rémunère les artistes. Je vois régulièrement sur Twitter des artistes d'ailleurs se moquer un peu d'un tweet de Spotify qui annonce un milestone particulier et répondre ah bah j'ai gagné 1 euro par exemple en exagérant. Apple lui a fait a préféré se mettre du côté des artistes, donc en les rémunérant mieux, en faisant en sorte que les 3 mois d'essai gratuit soient rémunérés aussi pour les artistes. Voilà, c'est tout un tas de petits détails qui fait que est-ce que on consomme plus équitablement sur Apple TV que sur Spotify ? Sans doute, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Clairement, moi, je ne retrouve pas la qualité de conseils que j'ai sur Spotify, sur Apple Music. Mais c'est peut-être à mettre en avant sur globalement l'un des principaux défauts d'Apple, c'est d'être très américano-centré du côté de ses services de contenu. On voit au niveau des séries ou des radios, par exemple sur Apple Music, c'est très américain, très anglais. Il y a quasiment rien en termes de production européenne sur toutes les langues et pas seulement le français. S'il y a vraiment quelque chose à améliorer en 2022 du côté d'Apple Music en tout cas, ce serait ça. Et tu parlais des casques. Alors oui, la qualité audio est meilleure sur Apple Music, mais ça concerne quoi ? 1% des utilisateurs, et encore, je pense que j'exagère, qui est prêt à mettre 500 euros ?
Non, mais je parlais pas des casques, je parlais des AirPods par exemple. Enfin.
Oui, mais enfin les AirPods, oui, bien sûr, mais ça reste quand même des AirPods classiques, donc au final la qualité est pas forcément extrêmement perceptible, d'autant plus qu'ils sont faits en Bluetooth. Donc je pense que ces petits combats là, c'est du détail et ça représente vraiment un nombre minime d'utilisateurs qui ne va au final pas vraiment voir la différence, parce que le genre le plus écouté c'est la pop, et la pop, on va pas se mentir, même en lossless, c'est pas, voilà, tu sentiras pas la différence entre un album de Taylor Swift en lossless et un album de Taylor Swift en qualité MP3 classique.
Alors je laisse ton adresse pour les fans comme ça, voilà.
Bon, on passe sans transition à mon chouchou, je dois l'avouer, c'est Apple Arcade. Le service de jeux sur abonnement s'est régulièrement renforcé avec des jeux de plus en plus sympas, des classiques comme des exclusivités, et je me surprends eh bien, à y jouer de plus en plus. Christophe, est-ce qu'on peut dire que Apple a réussi quelque chose ici ?
Alors, Apple Arcade, pour moi, c'est vraiment la grosse inconnue. Je sais pas quoi en penser, en fait. J'ai toujours trouvé l'idée de base, alors là, excellente. Il y avait vraiment pourquoi on fait Apple Arcade. Parce que le jeu sur smartphone, c'est devenu n'importe quoi. C'est la course aux achats in-app et aux publicités foireuses pour vous inciter à passer le plus de temps devant votre jeu. Et donc là, l'idée d'Apple Arcade, c'était de régler ce problème. Et de ce côté-là, c'est vraiment une très très bonne chose. Après, c'est un peu pour revenir, on peut faire un parallèle avec TV+. Moi, alors je suis pas un grand joueur, pourtant au début de l'iPhone, je jouais pas mal, mais bon, j'ai un peu laissé tomber. J'ai l'impression que depuis le début d'Apple Arcade, il n'y a pas eu un hit, un jeu qui se fait « Ah ouais, je vais m'abonner à Apple Arcade parce qu'il y a jeu, il est vraiment trop bien ». Ouais. Et c'est un peu ça le truc qui manque. Et l'autre chose aussi, mais là, je le dis encore, je regarde ça vraiment un peu de loin et je suis pas forcément le plus grand des spécialistes. J'ai l'impression que la politique d'Apple Arcade, elle est pas très très claire. J'ai l'impression qu'ils essaient beaucoup de choses, qu'ils font un pas à gauche, un pas à droite, un pas en avant, un pas en arrière. Il n'y a pas de... De temps en temps, on retrouve des jeux type... c'est quoi le jeu de basket? Il s'appelle comment c'est?
NBA 2K22. Voilà,
donc on s'est dit, on va faire ça, et puis de temps en temps, on va miser sur les jeux indépendants, de temps en temps, on va... J'ai l'impression que ils tâtonnent, et c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage avec Apple Arcade.
Même s'il y a plus de 200 jeux maintenant sur Apple Arcade, tous les genres ne sont pas représentés. J'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'on aura droit à un Call of Duty sur le service, par exemple. Il y a un petit côté voix de garage, j'ai envie de dire, quand on voit, par exemple, Konami qui refile un Castlevania qui était à l'origine pensé pour du freemium. Sylvain, il manque encore des choses, selon toi, à Apple Arcade pour devenir complètement incontournable pour les utilisateurs d'Apple?
Bah, je vais rejoindre ce que disait Christophe. Effectivement, le principal problème d'Apple Arcade, c'est qu'il manque un vrai hit. Et surtout, ce qui est assez cruel, c'est de voir que des gros jeux indépendants qui sortent pendant une période d'exclusivité donnée trouvent finalement leur succès sur d'autres plateformes, notamment la Nintendo Switch. On sent bien qu'il y a un petit buzz au début, que Apple souhaite un peu mettre en avant ce genre de choses. Mais au final, là où le jeu va vraiment connaître du succès, c'est sur des plateformes plus classiques. Donc c'est un peu dommage. Et c'est probablement effectivement ce que disait Christophe, c'est la conséquence de ce tâtonnement qu'il y a depuis quelques années. Moi je me rappelle qu'on avait déjà parlé d'Apple Arcade il y a déjà quelques mois dans le podcast, et on disait que à l'époque il y avait pas encore les fameux classiques, et on se demandait où est-ce que ça allait exactement Apple Arcade. Ouais. La question se pose un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'effectivement il y a les grands classiques aujourd'hui. Moi perso je suis abonné à Apple Arcade, je m'étais désabonné pendant quelques mois, et maintenant je me suis réabonné parce que ça me plaît de rejouer des classiques sans toute la partie freemium. Donc rien que ça, c'est déjà un plaisir. Mais je m'abonne parce que c'est pas cher, parce que je me dis c'est pas grand chose dans mon budget que j'ai en termes de service tous les mois. Si demain je devais faire attention un peu à ce que je dépensais au niveau de mes abonnements, Apple Arcade serait probablement la première victime, une des premières victimes en tout cas de cet état de fait. Donc parce qu'il n'a rien effectivement véritablement pour lui. De toute façon, d'une manière générale, Apple, t'as l'impression que sur ce genre de choses, ils ont jamais vraiment su quoi faire. Dès qu'ils considèrent quelque chose comme un hobby, ça devient un problème sur le long terme. Ouais. Au début, ils le poussent beaucoup, mais ensuite, ils y font plus vraiment attention, et de temps en temps, t'as quelques fulgurances. Il y a eu Fantasian il y a peu de temps, mais au final, en fait, on en a parlé pendant quoi, 15 jours, même pas, et ensuite, c'était très vite oublié, alors qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Je prends un autre exemple, Grindstone, dont je te crois assez fan, mon cher
oui,
Mickaël. Le jeu a été un succès plus ou moins sur Apple Arcade, mais là où il a cartonné, c'est sur Switch. Ouais. Donc plutôt effectivement que de chercher constamment sur quelle formule adopter, faut-il ajouter des classiques ou non, un back catalogue, etc. Apple devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça fonctionne sur Switch et que en termes de retombées médiatiques et d'utilisateurs, et pas sur sur mon propre service. C'est, elle est là la vraie question. Et je pense qu'actuellement, bah, Apple n'arrive pas à y répondre. Donc, ils continuent un peu à abreuver Apple Arcade de quelques jeux, mais je suis pas certain que sur le long terme ça puisse fonctionner. Là, on est sur une stratégie qui est assez court-termiste, et surtout, on n'entend pas beaucoup les développeurs dire grâce à Apple Arcade, j'ai réussi à trouver la rentabilité là où on l'a ailleurs. Genre le Game Pass, ça permet à plein de studios de trouver de la rentabilité, là où s'ils avaient sorti le jeu de manière classique où il fallait payer le jeu, clairement ils en auraient vendu 30. Donc le on n'entend pas ce genre de choses. Donc est-ce que ça donne envie aux autres développeurs de s'y mettre? Probablement que non. Et Apple est obligé de mettre la main au porte-monnaie pour subventionner des créations pour Apple Arcade, alors que en fait à une époque au lancement de l'iPhone, de l'App Store, tout le monde se précipitait sur l'App Store. Apple avait rien à faire, ils n'avaient pas à signer des exclusivités de 6 mois pour s'assurer que le jeu reste exclusif à iOS. C'est un vrai problème d'Apple Arcade aujourd'hui.
Je me permets d'ajouter deux choses pour compléter ce que dit Sylvain. Oui. Moi, j'aimerais qu'à la manière de TV+, Apple contacte quelques développeurs de jeux, mais vraiment des stars, et allonge les millions, en disant, bon, bah, pour ce jeu, on te donne un budget de, je sais pas, 5, 10, 15 millions de dollars, et fais-toi plaisir, et éclate-toi, et montre-nous ce qu'un jeu pour smartphone peut être en 2022, et que ce soit une véritable vitrine, à la fois pour Apple Arcade et à la fois pour l'iPhone. Et la deuxième chose, et je pense que le propos de Sylvain, il éclaire vraiment ça, c'est que on a l'impression qu'Apple s'est lancé dans une course effrénée de services, et voilà, et Apple Arcade est assez symptomatique de ça. On a l'impression qu'ils ont lancé, s'ils sont des fois, on ne sait pas s'ils ont vraiment lancé des fois des services pour répondre à un besoin ou à une stratégie, ou pour faire plaisir aux actionnaires. C'est dire, voilà, on va lancer plein de choses, voilà, parce que sur les services, histoire de montrer qu'on est très 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 actif, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais on y va quand même, et puis après on verra. Et ça, oui, quand Apple fait ce genre de choses, quand Apple a fait ce genre de choses dans son histoire, ça a rarement marché.
Ouais. On va dire un mot rapide ou plus long sur Apple Fitness Plus qui s'est lancé en France en fin d'année dernière. Apple a fait le service minimum un petit peu puisque les vidéos ne sont pas doublées en français mais seulement sous-titrées. J'ai quand même l'impression que la sauce a l'air de prendre, mais il faut dire qu'Apple offre 3 mois gratuits pour l'achat d'une Apple Watch. Christophe, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester un petit peu et qu'est-ce que tu en penses?
Oui, j'ai fait un petit peu joujou avec Fitness Plus, oui. Oui, moi je trouve le service pas mal du tout. Après, par rapport à ce que Apple peut faire avec Fitness Plus, comme compagnon de l'Apple Watch, on en est, de mon point de vue, au tout début. C'est-à-dire qu'il y a des exercices, c'est très, on va dire que c'est très scolaire, c'est très bien fait, c'est très bien filmé. Ouais. Mais entre ce que l'Apple Watch est capable de faire et ce qu'on peut regarder, il manque des activités. C'est quelque chose en chantier. Après, il faut pas oublier que Fitness Plus fêtait déjà son premier anniversaire. Là, c'est vrai qu'ils ont remis un coup justement en l'ouvrant un nouveau pays et en mettant un peu plus de contenu et en lançant la collection où il y a quelqu'un qui parle lorsqu'on fait des petites courses. Il manque par exemple, même s'ils ont commencé à faire ça, il manque des collections. Là aussi, ça vient de commencer. Ce qui c'est bizarre que ce soit pas des Day One, par exemple. Je veux courir un 5 km. Je veux améliorer ma condition à la sortie d'hiver. Je veux me préparer pour le ski. Ils ont commencé à mettre tout ça en place. Mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire, on est encore loin du compte.
Alors justement, Fitness Plus, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des ambitions d'Apple dans le secteur du sport et de la santé. Ça permet aussi d'occuper le terrain tant que les futurs capteurs de l'Apple Watch ne seront pas au point. Mais contrairement à Apple TV Plus ou Apple Music, j'ai quand même l'impression que c'est difficile de se renouveler dans le genre des cours de sport en vidéo. D'ailleurs, quand j'avais testé, j'avais fait assez vite le tour des activités de course en tapis. Est-ce que tu sens qu'il y a de la croissance sur ce marché pour Apple?
Alors déjà, le marché du fitness en vidéo, en cours en ligne, c'est un marché qui est extrêmement large. Il y a tout le monde, il y a différents acteurs. Ça va de donc j'imagine que enfin ça va de peloton, on dit c'est ça, hein, c'est comme ça que
peloton.
Peloton, ouais, qui donc ouais. qui fait des tapis roulants et des accessoires connectés à la salle du sport du coin qui s'y est mis depuis le confinement, depuis le premier confinement. Donc dans un package, moi je pense que Fitness Plus a effectivement toute sa place. Après, effectivement, on risque effectivement, enfin, il risque d'y avoir un côté très 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 répétitif. Et c'est là où je pense que Apple doit diversifier en permanence son offre dans son service. Après, est-ce qu'ils vont le faire, ça c'est une autre question.
Alors les services chez Apple, bah ça se limite pas à du contenu sur abonnement, et il y a aussi tous les services financiers, et Apple Pay, c'est clairement le champion du secteur du paiement mobile. Sylvain, avec le Covid, est-ce que tes habitudes ont changé pour payer dans les commerces? Est-ce que tu sors plus facilement ton Apple Watch ou ton iPhone?
Complètement. Alors j'ai plus de mal avec Apple Watch parce que ça marche pas des masses, on va dire. Mais globalement, oui, Apple Pay c'est vraiment devenu mon dada parce que aujourd'hui, en fait, on sent bien qu'en France, on a bien pris le pli. Je sais pas comment ça se passe en Allemagne où la carte bancaire est un peu moins et même beaucoup moins utilisée. Christophe pourra peut-être nous répondre, mais pour le coup, en France, c'est un peu devenu quelque chose d'habituel pour, en tout cas dans les grandes villes, pour les marchands et les commerçants. Peut-être que, en tout cas, c'est l'ajout petit à petit, notamment par exemple des cartes restaurants, d'une carte au format carte bancaire restaurant, le fait que la quasi-totalité des banques aujourd'hui le propose, même des banques plus secondaires, c'est vraiment, enfin, c'est probablement une révolution dans le sens où on a bien vu que l'arrivée d'Apple sur le marché a permis à d'autres de vraiment se lancer, même si avant il y avait évidemment ce genre de possibilités. On sent bien que de plus en plus d'utilisateurs ont compris comment ça fonctionnait. Je prends l'exemple de ma mère qui est probablement l'utilisateur le plus basique, c'est la fameuse Madame Michu qui représente la majorité des utilisateurs de smartphones aujourd'hui. Elle se sert d'Apple Pay parce que c'est très simple. En fait, même s'il y a des petits soucis à cause du masque pour ceux qui n'ont que Face ID, Apple Pay, c'est devenu une habitude ancrée chez beaucoup beaucoup de Français. Et ma mère n'habite pas dans une grande ville, donc il y a là ce sur quoi Apple s'est bien mis, c'est clairement effectivement le paiement mobile. On revient de loin quand même, hein, ouais. À une époque où fallait peut-être on pouvait peut-être pas payer par carte bancaire, il y avait pas forcément de paiement sans contact passé à une certaine somme, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais avec un iPhone, il y a plus cette limite là. Donc franchement, ouais, moi clairement, s'il y a bien effectivement un service d'Apple qu'il faut célébrer, c'est bien Apple Pay.
Christophe, en Allemagne justement, toi qui connais un petit peu, c'est Apple Pay, c'est comme en France ou pas?
Alors je suis tombé sur une étude il y a quelques semaines où j'étais surpris de lire que les Allemands utilisaient un peu plus leur smartphone que les Français. Oh. Pour payer, ouais. Alors est-ce que mais je pense que le confinement et le Covid là-bas a accéléré et a provoqué certains changements. Mais baladez-vous toujours avec Lucas, ça peut toujours servir. voilà. Non, mais Apple Pay, effectivement, c'est une magnifique réussite. Moi, j'attends le jour où Apple sauvera ses résultats financiers grâce à Apple Pay en disant, oh, on n'a pas vendu autant d'iPhone qu'on espérait, ou ouais. Les ventes de Mac étaient un peu décevantes. Mais ouais, mais seulement nos clients ont dépensé beaucoup avec Apple Pay, ce qui fait qu'on est en haut de la fourchette. Je pense que ce jour arrivera. C'est vrai que c'est une magnifique je répète, c'est une magnifique réussite. D'ailleurs, juste pour une anecdote personnelle, j'ai été faire mes courses mardi dernier, donc comme d'habitude, je voulais payer avec ma montre au supermarché du coin, et là boum, ça ne marchait pas. Je sais pas, il devait y avoir un problème avec et ça ne m'était pas arrivé depuis, je pense, des mois et des mois et des mois. Par chance, j'avais encore une carte une carte bancaire et j'avais mon portefeuille avec moi. Ouais. Mais c'est pour vous dire que, ça m'a servi, tiens, aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire à quel point. Après, il faut malgré tout y apporter un bémol à cette affaire, parce que on parle toujours, si Apple Pay marche, c'est parce qu'on se retrouve en plein dans l'écosystème d'Apple. Donc là, avec du service, du logiciel, du matériel, tout va bien. Après, il faut pas perdre de point de vue que voilà, Apple quand même continue à garder à garder l'exclusivité sur certaines fonctions de ces puces NFC.
Je voulais venir justement.
Voilà, et rend quasiment impossible l'utilisation par d'autres concurrents. Ouais. Et là, oui, pour moi, il y a un vrai problème sur lequel, bon, le régulateur ne nous a pas attendus, mais sur lequel il convient de se pencher, je pense, parce que c'est un vrai problème.
Ouais, il y a une enquête du côté de la Commission européenne qui est en cours depuis quelques mois maintenant. Et ça risque de débloquer là.
Mais c'est un peu malheureux de se retrouver quand même dans cette situation-là quand on se souvient de l'attitude hautaine des banques il y a quelques années, qui ont tardé à se mettre d'accord pour mettre au point une technique permettant de payer avec son smartphone, qui ont freiné des cas de fer pour qu'on puisse utiliser Apple Pay. Et voilà. Et malgré tout, c'est toujours la boîte high-tech qui s'en sort et qui a fini par tirer les marrons du feu. Et même si le régulateur maintenant va arriver et va taper, quelque part c'est déjà trop tard parce qu'avant que, enfin, les utilisateurs sont habitués à Apple Pay et pour faire changer les habitudes, il y a du boulot.
Ouais. Si du côté d'Apple Pay, on est plutôt bien loti en France, comme on disait, par contre, il y a quand même pas mal de services financiers auxquels on n'a pas droit, comme Apple Cash et évidemment l'Apple Card. Il y a des réglementations qui font que c'est plus compliqué en Europe, mais ça va faire 3 ans maintenant que l'Apple Card a été lancé aux États-Unis. À ton avis, Christophe, c'est mort de chez mort pour ce genre de services financiers en France ?
Sur le papier, c'est extrêmement, effectivement, c'est très difficile de reproduire l'Apple Card aux États-Unis avec ses habitudes de consommation avec la France. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a de tels enjeux financiers qu'Apple doit réussir à trouver une formule dans laquelle cette carte soit transposable dans le monde et particulièrement en Europe. Enfin, voilà. Après, est-ce qu'ils peuvent nouer des partenariats qui, un peu d'ailleurs, ce que fait avec à l'image de ce que fait par exemple Revolut, c'est-à-dire que vous payez avec une carte Revolut et vous allez sur Nike, sur le site de Nike ou je ne sais trop qui, et vous vous retrouvez avec du cashback, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire après, et je pense que surtout que l'enjeu en vaut la chandelle pour Apple.
Ouais.
Après, on est effectivement dans un domaine très régulé et je pense aussi qu'Apple est très surveillé. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions, ouais. Ça, c'est évident.
Et puis surtout, c'est les habitudes de consommation, effectivement, tu le disais, qui ne sont pas du tout les mêmes. Aux États-Unis, on vit sur un crédit, là où en France, on apprécie tout particulièrement le paiement direct. Donc, on voit avec le non-succès, en quelque sorte, de l'American Express, qui fonctionne peu ou prou sur le même principe qu'une carte bancaire américaine, où en gros, donc c'est décompté une fois par mois, donc tu fais des dépenses, t'as un plafond de dépenses, etc. Et on voit bien que les Français, ils sont pas vraiment prêts, on va dire, à différer leur paiement, parce que il y en a, voilà, ils aiment bien avoir, c'est mon cas, avoir directement la dépense que je viens de faire, que ce soit voilà dans l'heure ou 24 heures plus tard, dans le cas d'une banque un peu plus lente, la banque postale. Et donc rien que ça, je pense que c'est le principal frein à l'arrivée de l'Apple Card sur le marché européen ou en tout cas français. Et puis je pense que ils avaient déjà galéré à installer Apple Pay, mais alors, parce que les banques effectivement freinaient les cas de fer, mais alors une carte bancaire, mais ça va être encore pire, ça va être encore pire. Et surtout si Apple fait ce choix là. Et du coup, signe peut-être une exclusivité avec la Société Générale ou le CIC, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Il faut justement faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre pour que ce soit le plus rapidement adopté. Moi, jamais de la vie, j'irai chez la Société Générale juste parce que ils ont une carte bancaire Apple, même s'il y a des promesses de cashback derrière. L'intérêt aux États-Unis, c'est qu'ils ont signé avec ces Mastercard, c'est ça ?
Mastercard et Goldman Sachs.
Et donc c'est accessible à toutes les banques. Donc il faut absolument qu'ils fassent ça. Mais en même temps, est-ce que leur volonté c'est de proposer des cartes de paiement et pas des cartes de crédit ? C'est ça la réalité. Et c'est peut-être pour ça que on n'a toujours pas Apple Card 3 ans plus tard en France.
Mais à défaut d'être, l'idée c'est que Apple pourrait être quelque part il pourrait t'apporter des solutions à toi comme utilisateur. Et effectivement, on veut sans doute pas d'un système à l'américaine, mais par exemple, il y a malgré tout les paiements en 2, 3, 4, 5, 6, 6 mois sans frais. Qu'est-ce qui empêche Apple de se dire, de prendre ce rôle-là, c'est-à-dire, tu es en magasin, tu achètes un bien qui coûte, je sais pas, 700 €, et là, au lieu de te lancer dans une opération comme ça avec un partenaire bancaire que tu ne connais pas ou te lancer dans la paperasse, tu as déjà un pré-contrat avec Apple et tu dis bon, bah je vais acheter ce bien à 700 €, je vais le payer en 4 fois sans frais ou avec un tout petit crédit. Mmh. C'est pas impossible.
C'est vrai, effectivement. Ouais.
Enfin, c'est difficile de ne pas parler de iCloud, qui comprend tout un tas de services auxquels il est quasiment impossible de ne pas succomber. Je pense à la synchro des photos, par exemple, mais aussi à la sauvegarde de ses appareils, au trousseau pour les mots de passe et à tout le reste. Là, pour le coup, Christophe, on ne peut pas s'en passer de iCloud.
Bah, c'est là où c'est étonnant quand on parle de services maintenant, c'est qu'on parle de beaucoup de choses. Finalement, de mon point de vue, les deux services les plus importants pour Apple, c'est iCloud, les services liés à l'App Store et pour finir, Apple Care. Parce que c'est là où vraiment on attend Apple. Ouais. Et un Mac, aujourd'hui, si vous prenez un Mac, un terminal Apple sans iCloud, vous ne goûtez pas l'expérience entière. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais il y a quand même des progrès qui sont faits, faits en permanence. La gestion de fichiers a longtemps été chaotique. Maintenant, ça marche quand même globalement bien. Mmh. Le partage de documents, c'est quelque chose aussi de très agréable. Moi, il y a une des fonctionnalités que j'aime bien, c'est travailler notamment à plusieurs avec la suite iWork. Ouais. Ça marche grosso modo très très bien, c'est simple, c'est rapide. Il y a encore des choses qui peuvent améliorer, mais chaque année, il y a des améliorations régulières qui sont apportées. Il manque encore certaines choses. Moi, par exemple, on en parle régulièrement sur MacG, mais j'aimerais qu'Apple lance un jour un système de sauvegarde pour le Mac dans iCloud. Ouais. Ça serait super.
Alors iCloud, c'est gratuit pour tous les utilisateurs d'appareils Apple, mais on est vite coincé avec les 5 gigas de stockage gratuit par défaut. Apple nous force en quelque sorte à s'abonner pour du stockage supplémentaire. Est-ce que Apple abuse, à ton avis, Sylvain, ou est-ce que les prix te semblent justifiés? Alors je vais rappeler que c'est 99 centimes pour 50 gigas et 2,99 € pour 200 gigas.
Alors moi j'ai la formule à 99 centimes parce que effectivement oui on va pas se mentir, hein, 5 gigas c'est pas suffisant, ouais. Clairement pas, en tout cas pour un utilisateur classique de ne serait-ce que juste que d'un iPhone sans pour autant bénéficier d'un iPad ou d'un Mac, c'est impossible de tenir avec 5 gigas ouais. Ou alors tu passes ton temps à gérer tes sauvegardes et à un moment donné mettons-nous dans la peau d'un utilisateur lambda. C'est pas quelque chose qu'il regarde. Il va surtout prendre beaucoup de photos, des vidéos et c'est tout. Donc est-ce que Apple est un peu chiche de ce côté-là? Sans doute, ce serait bien qu'ils mettent au moins à 10 gigas ou à 15. Pour autant, je crois pas qu'ils abusent en termes de prix. Moi, je paye 99 centimes. Je trouve pas que ce soit énorme. 1 € par mois, c'est pas grand chose pour 50 gigas. Oui, c'est très cher par rapport à ce que j'utilise réellement, parce qu'au final, tu vois, je dois être à peu près 20 gigas d'utiliser sur iCloud. Mmh. Mais malgré tout, le Apple de ce côté-là a bien compris les bons niveaux qu'il fallait proposer aux utilisateurs. Ils proposent pas 200 gigas d'un coup. Ils auraient pu le faire. Hein. Mmh. Donc il y a un palier de base qui est de 99 centimes, ce qui est pas grand chose, et ce qui permet quand même une toute petite rentrée d'argent pour Apple et aux utilisateurs de se sentir un petit peu plus libre de leur mouvement dès qu'ils utilisent le cloud. Est-ce que 50 gigas c'est pas un peu chiche pour 99 centimes au prix aujourd'hui de ce que fait la concurrence? Je ne crois pas. Je crois que il me semble que Google est à peu près au même prix, ouais. Et les autres concurrences directes, je crois qu'elles sont même un peu plus chères, peut-être pour des fonctionnalités ou des performances un peu meilleures, parce que c'est vrai que c'est un des gros défauts d'iCloud, c'est que déjà il tombe régulièrement en carafe et surtout il a pas les mêmes performances qu'un Google ou d'autres services. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait de ce côté-là. En termes de tarifs, pour moi, ils sont plutôt bien positionnés.
Et surtout, Christophe, Apple a rajouté des services supplémentaires pour les abonnés payants dans iCloud Plus, avec plusieurs fonctions liées à la confidentialité des données.
Oui, effectivement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Apple ne cesse de faire évoluer son offre. Je suis toujours partagé entre ils offrent toujours plus et en même temps, moi j'aimerais parfois qu'ils améliorent l'existant. Ouais. Il y a quand même des choses dans photo, par exemple. Ce serait bien quand même que voilà qu'ils y regardent à deux fois. On parlait par exemple, on avait un bug et on était plusieurs à avoir ce problème-là. C'est-à-dire que tu changes par exemple d'iPhone et tu as l'indexation des visages qui prend des plombes et qui au bout de 2, 3, 4, 5, 6 semaines est toujours pas achevée. Et par autre chose délirante à propos de photos, c'est que tu peux pas véritablement avoir un album partagé avec ton conjoint ou ta conjointe. Et ça, enfin en 2021, en 2022 même maintenant, je trouve ça fou.
Christophe, quand on regarde le paysage des services d'Apple dans son ensemble, on voit que certains sont plus avancés que d'autres, et qu'il y en a qui font davantage partie des hobbies que des services essentiels. Ça donne parfois cette impression que, comme tu disais tout à l'heure, Apple avait jeté le plat de spaghettis contre le mur pour voir ce qui allait rester collé. Est-ce que tu penses qu'Apple a quand même raison de pousser sur tous les boutons comme ça, ou est-ce qu'il aurait fallu prendre un peu de recul et de retarder par exemple le lancement d'Apple TV+, histoire de muscler le catalogue?
En fait, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est qu'Apple n'est pas là où on l'attend peut-être le plus. C'est que finalement, qui c'est qui est arrivé en premier là où Apple veut arriver? C'est Google, avec Google One. C'est Google One, comme ça que ça s'appelle. Hein. Le service qui prend en charge à la fois les services et la location du Pixel. Et moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas à ce jour un forfait, disons à 40-50 €, qui comprend tout, c'est-à-dire qui comprend l'iPhone, qu'Apple me changera, je sais pas, on va dire tous les 2-3 ans, sans que j'ai à réfléchir, enfin si ce n'est au modèle que je vais prendre, et avec tous les services dont j'ai besoin. Il n'y a pas la formule complète, et c'est ça qui est presque étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce panel-là, TV+, ça peut effectivement être le petit plus qui fait la différence, qui peut être appréciable, voilà. Mais bon, je pense que pour la majorité des utilisateurs, le nerf de la guerre, c'est le terminal, c'est AppleCare, et voilà. Et si Apple, à côté, veut proposer des services qui permettent qu'on puisse utiliser son iPhone, bénéficier de plein de contenus, tant mieux. Mais je pense que malgré tout, le nerf de la guerre, c'est le terminal. Et bizarrement, là, Apple est pour l'instant très très timide.
Sylvain, toi tu as une vision moins centrée sur Apple que nous autres, je crois même que tu utilises un PC, alors c'est pour dire, est-ce que cette vision d'Apple sur les services, est-ce qu'elle te paraît, je dirais, pertinente, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, mais qu'est-ce qu'Apple vient faire ici?
Alors honnêtement, depuis que je bosse pour Clubic, je suis passé quasiment 100% Apple, en tout cas au travail. J'ai un Mac, j'ai une Apple Watch, j'ai un iPad et donc un iPhone. Mais
toujours l'esprit de contradiction.
Total. Je pense qu'en fait, pour moi non, la politique en termes de service d'Apple est plutôt bonne. C'est important qu'Apple soit présent sur des éléments comme Apple TV+ ou Apple Arcade, même si c'est pas toujours fait de la bonne manière, parce que je pense que il fallait pas retarder le lancement d'Apple TV+. On l'a bien vu. Ils avaient retardé d'un an, ça serait tombé quasiment en même temps que le Covid, et donc ils auraient totalement loupé la marche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire qu'Apple se positionne sur l'ensemble des nouveautés qui sont un peu en vogue. Ils ont pris leur temps avec le casque, leur futur casque en réalité augmentée et virtuelle. C'est plutôt une bonne chose pour le coup. Mais sur d'autres services, effectivement, c'est nécessaire, on va dire, de se lancer le plus tôt possible, même si il faut payer les pots cassés. Après, en tant qu'utilisateur aussi qui n'utilise pas que du Apple, effectivement, je suis sur Windows. Moi, ce que je regrette beaucoup, et je pense que les utilisateurs Android pensent un peu la même chose, c'est qu'Apple soit toujours plus ou moins quand même fermé à l'idée de faire éclore son écosystème en dehors de ses propres appareils. Tu le disais, Christophe, le terminal, c'est le nerf de la guerre. Et même si, effectivement, je suis totalement d'accord avec l'idée de proposer un abonnement à 50 € par mois où tu as effectivement accès à Apple One ou à d'autres fonctionnalités en plus du téléphone, Il faut voir plus loin et il faut clairement qu'Apple se dise que bah, les utilisateurs Windows, c'est aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être donner un chiffre farfelu, mais je crois que c'est genre de l'ordre de 90% des utilisateurs de d'ordinateurs dans le monde, et qu'il faut aussi penser à eux, tout comme il faut penser à ceux qui ont des téléconnectés autres qu'Apple, autres que ceux qui ont une Apple TV en dessous, tout comme il faut penser à ceux qui sont sur Android. On a l'impression qu'Apple, ils voient un peu les utilisateurs Android. Bon, ils s'y intéressent, notamment pour Apple Music, mais c'est tout. Et sur Windows, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, la 8e, 10e roue du carrosse. Il y a rien pour eux. La navigation sur le web pour Apple TV+, c'est une tannée, sincèrement. Je sais même pas si c'est compatible avec l'ensemble des navigateurs, c'est dire. On voit aussi pour Apple Music où là, faut continuer à utiliser iTunes. Enfin, dites-vous, vous y avez plus droit sur Mac, mais sur Windows, c'est toujours le cas. Il y a tout un tas de petits bugs dans l'engrenage qui rend l'expérience Apple en dehors de l'écosystème Apple, donc des appareils Apple, qui est vraiment problématique et qui empêche, je pense, l'adoption réelle de l'ensemble des services d'Apple qui peuvent certes pas tous fonctionner à la pointe comme certains concurrents, mais qui ont le mérite d'être là et qui globalement fonctionnent. Et c'est vraiment dommage. C'est un gros défaut dans la botte. C'est un gros caillou dans la botte à Apple, quoi.
Et puisqu'on est en début d'année, moi je pense que Apple s'est lancé à beaucoup appuyer sur les services, on va dire, ces 3-4 dernières années, parce qu'on arrive aussi à quelque part à des fins de cycle, c'est-à-dire que bon, le succès de l'iPhone s'étire, mais bon, l'iPhone a fêté malgré tout fêté son 15e anniversaire. Là, on parle d'un produit qui est plus que mature. Ouais. Apple a lancé quelques produits qui ont eu du succès, comme l'Apple Watch et les AirPods. Mais les AirPods, finalement, ça ne reste qu'un accessoire pour iPhone. Donc Apple a beaucoup misé sur les services pendant ce temps-là. Et on arrive peut-être maintenant à la fin de cette période-là, où elle a fait une certaine transition. Mais on va commencer de plus en plus, surtout en ce début d'année, à attendre la suite. Et quelle est la suite pour Apple en 2022, plus qu'un service, et quel est le prochain produit qui va ébahir, on va dire, le monde, qui va dire, ah ouais, là on voit le futur, là on voit les années 2020. Alors, est-ce que ça sera un casque de réalité augmentée? Est-ce que c'est les travaux dans tout ce qui est mobilité? Mobilité connectée, j'en sais rien, mais quoi qu'il arrive, le temps commence à tourner et il est temps que certaines choses se concrétisent. Et je le dis d'autant plus que ce qui était par exemple très intéressant dans le cas du Club Hygiène, il y a eu la série de Nicolas sur la Tesla, et on voyait quand même dans les commentaires des gens, enfin, on avait l'impression que voilà. L'objet, on va dire, iconique de ce début des années, de cette décennie, c'est la Tesla. Ouais. Et ça aussi, ça veut dire certaines choses. Et je pense qu'Apple, j'espère, j'en suis persuadé, en tire quelques conclusions.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous les deux pour avoir participé à cette émission. Merci et salut Sylvain.
Merci.
Salut Christophe et à tout de suite sur Mac Génération.
Merci, à bientôt.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de futures aventures.